BFM Business, l'info éco.
BFM Bourse, c'est la troisième heure qui s'enclenche dans un instant. On est en train de clore le semestre. Non, pas le semestre, on va pas s'emballer. Le trimestre, le premier trimestre de l'année, positivement. Depuis le début du trimestre, le CAC 40 gagne 9%. Le S&P, lui, sur le premier trimestre, gagne 10%. Waouh. Jusqu'où iront les marchés? On posera la question à nos experts dans un instant dans le club. Auparavant, toute l'actu de cette fin de journée. Marjorie Adelson nous accompagne. Rebonsoir, Marjorie.
Rebonsoir, Guillaume. Rebonsoir à tous. On commence avec cette information qui vient tout juste de tomber. Sam Bankman-Fried est condamné à 25 ans de prison. C'est ce que les juges américains ont décidé contre l'ancien roi des crypto-monnaies. On y reviendra plus tard dans les prochaines éditions. Réunion au sommet pour le déficit public. Le gouvernement reçoit en ce moment à Bercy des ministres et des parlementaires de chaque groupe, sauf DLR qui ont décliné. Le but est de trouver des économies après l'envolée du déficit à 5,5% du PIB. Gabriel Attal l'a rappelé hier, le gouvernement souhaite garder le cap et ramener le déficit en dessous de 3% d'ici 2027. Emmanuel Macron appelle à un nouveau Mercosur. Le chef de l'État estime que l'accord actuel de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains est trop ancien et, je cite, très mauvais. C'est ce qu'il a indiqué aujourd'hui lors de son déplacement officiel au Brésil. Le président reproche notamment au texte la non-prise en compte de la biodiversité et du climat et suggère des clauses miroirs pour faciliter l'accès au marché européen. Direction les États-Unis où la croissance fait mieux que prévu. Au T4, elle s'établit à 3,4% sur un an. C'était 3,2% dans les premières estimations. Cette révision ne vient toutefois pas modifier la croissance du PIB sur l'ensemble de l'année. Elle reste à 2,5% en 2023 contre 1,9% en 2022. 2,5 milliards d'euros, c'est le montant que les Pays-Bas vont déployer pour maintenir des entreprises comme ASML sur leur territoire. Le plan intitulé Beethoven vise principalement à empêcher le géant des semi-conducteurs de s'installer à l'étranger. Une décision qui intervient alors que le pays craint une répression de l'extrême droite contre l'immigration. Dans les semi-conducteurs, toujours le bénéfice net du chinois. SMIC recule de 50% en 2023 à 902 millions de dollars. En cause, les sanctions américaines. Face à l'aspect stratégique du secteur, Washington a en effet mis en place une liste noire des entreprises chinoises pour les couper des chaînes d'approvisionnement américaines. SMIC fait partie de cette liste. En Chine, toujours, ça y est, Xiaomi lance sa première automobile. Le géant de la technologie a inauguré aujourd'hui son premier véhicule électrique lors d'une conférence de 2h15 à Pékin. Il se lance donc dans ce secteur extrêmement concurrentiel où la guerre des prix fait rage. Le SU7 peut donc être commandé dès aujourd'hui. Il s'agit d'une berline qui ressemble à une voiture de luxe.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les pulsations du monde à travers les marchés, bienvenue à tous. On vit tout cela d'intérieur grâce à tous nos experts chaque après-midi. BFM Bourse de 15h30 à 18h. Aude Kersulec nous accompagne depuis la Tour Euronext. Aude, on est à une petite demi-heure maintenant de la clôture trimestrielle en Europe. Comment ça se présente ce soir?
Eh bien, vers la fin de la séance, on commence quand même à réduire nos gains, hein, puisqu'on montait plutôt bien à la mi-journée, en touchant même un plus haut historique au-dessus de 8250 points, et que maintenant, on est plutôt autour de 8215 points. On conserve une hausse de 0,12%. Et comme hier, c'est vrai que l'ouverture de Wall Street ne nous a pas forcément aidé. Wall Street, qui en ce moment est à l'arrêt. On a le Nasdaq qui recule un tout petit peu, et puis le S&P et le Dow Jones qui sont franchement autour de l'équilibre pour finir donc cette semaine de 4 jours sur les marchés.
Effectivement, semaine raccourcie puisqu'à chaque veille de week-end pascal, les marchés seront fermés. Demain, la plupart des marchés européens et Wall Street également. Sur le trimestre, puisque c'est la dernière séance du trimestre, du coup aujourd'hui, le CAC a gagné 9% sur le trimestre. Le S&P a gagné 10%. Pour le S&P, c'est le meilleur premier trimestre depuis 2019. Et pour la suite, il y a peut-être d'autres signes prometteurs. On va en parler dans un instant, en tout cas avec nos experts du club. La croissance américaine, elle est révisée à la hausse, comme d'habitude. Pour le quatrième trimestre, elle a été révisée de 3,2 à 3,4%. Finalement, on fera réagir aussi nos experts. Alors que demain, on aura un chiffre d'inflation très attendu, l'indice PCE aux États-Unis. Puis les valeurs, on vous présentera ces valeurs qui se distinguent aujourd'hui avec nos experts. Et puis notre portefeuille idéal aussi, ce sera à partir de 17h35, juste après la clôture des marchés. Bienvenue à tous, on est à vos côtés. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et si vous avez raté ce qui précède dans l'émission, on évoquait notamment la campagne électorale américaine. On est à 224 jours de l'élection présidentielle et figurez-vous que pour renflouer ses comptes de campagne, Donald Trump se lance dans la vente de bibles. Oui, Donald Trump vend des bibles désormais. Voilà. Bon, on en parlait avec John Plassard. Si vous avez raté le direct, c'était à 15h30 dans USA Today. Bien, il est disponible, cet extrait, cette analyse de John, disponible sur notre site BFM Bourse en replay. N'hésitez pas à le consulter, bien sûr. Oui, Donald Trump se met à vendre des bibles. Bon, Julie Jourdan est justement spécialiste des marchés américains. Elle est avec nous, elle nous accompagne aujourd'hui, gérante action US dans Plegest. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bertrand Puif aussi nous accompagne, gérant action pour Fidélité Internationale. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Alors Julie, on peut peut-être rebondir là-dessus. Il se trouve que les comptes de campagne de Donald Trump sont un peu plus dégradés quand même que ceux de Joe Biden. Joe Biden dispose d'un butin, d'un arsenal financier pour sa campagne plus important que Donald Trump. Si bien donc que Donald Trump se met à vendre des bibles pour trouver un peu d'argent. C'est incroyable quand même.
Effectivement, c'est pas classique. Après, est-ce que ça fera une différence pour la campagne ? Ça, c'est autre chose. Donc, il faut juste rappeler les grandes dates. L'investiture des deux candidats, ça sera cet été. En juillet pour le candidat démocrate, en août pour le républicain. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, on a deux candidats qui sont Joe Biden et Donald Trump, qui sont a priori les candidats, avec très peu de doute, les candidats de demain. Donc dans la réalité, effectivement, les comptes de campagne de Donald Trump sont sans doute dégradés et bénéficient de moins de soutien. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une notoriété qui reste relativement importante. Même si on sait que ça va être très serré. Hein. Il n'y a pas non plus aujourd'hui à ce stade d'écart particulièrement marqué. Ça sera très serré et ça se jouera sur quelques États, comme souvent.
C'est un businessman, c'est avant tout un businessman, Donald Trump. À quel prix vend-il chaque bible ? Ah oui, on en est là aux États-Unis. $60 la Bible, voilà. Le prix auquel Donald Trump se lance dans la vente de Bible. Donc, il n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est mis à la vente aussi de chaussures, c'est ça, de baskets depuis quelques semaines.
Il avait fait un coup de communication il y a quelques mois sur des baskets et effectivement qui avait été vendu dans un délai extrêmement court. Après, je pense ce qu'il faut, c'est remettre les choses effectivement dans leur contexte. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus important de regarder dans ce qui se passe, c'est que finalement on retrouve deux candidats qui peuvent faire bouger un petit peu les lignes au mois de novembre dans un contexte qui va être très tendu en termes électoraux. Et ça, je crois qu'on a déjà commencé à le voir et ça va se poursuivre.
Et pour trouver de l'argent, Donald Trump mise aussi sur la bourse puisqu'il a introduit en bourse avant-hier son groupe de médias. Quel carton, hein, le titre première séance a gagné quasiment 40%, hier encore en forte hausse. Là, aujourd'hui, ce titre Trump Media Technology Stock, ce titre recule un peu, -7,5%. Mais quand même, depuis l'introduction, c'est de l'argent engrangé par Donald Trump qui, cette semaine, grâce à cette introduction en bourse, a intégré le club des 500 plus grandes fortunes mondiales Donald Trump. Bon, voilà. On profitait de votre présence, Julie, puisque vous êtes gérante action américaine, pour évoquer cette campagne électorale là-bas aux États-Unis qui bat son plein et qu'on suit chaque jour aussi dans BFM Bourse. Quel potentiel, au-delà de la campagne américaine, sur les marchés ? On termine le trimestre quand même sur de nouveaux records. Tout à l'heure, le CAC 40 a franchi la barre des 8 253 points. Le S&P gagne depuis le début du trimestre quasiment 10%. Est-ce qu'on en a encore beaucoup sous le pied pour la suite ou est-ce que cette hausse sonne un peu creux, Bertrand ?
Alors non, plutôt tendance à dire que le potentiel de hausse, si on regarde les indices, est relativement limité, notamment aux États-Unis. Quand on prend le S&P 500 qui traite à 24 fois les profits, c'est, si on fait l'inverse effectivement du price earning, on est à 4%, donc d'implicite, de rendement implicite, qu'on compare à 4%, 4,25% sur le 10 ans, donc on a une prime de risque à zéro. Donc c'est prime de risque à zéro pour nos auditeurs, ça se compare à une moyenne historique aux États-Unis de 4%. Donc ça veut dire que la rémunération qu'on a pour le risque qu'on prend quand on investit sur une action par rapport à une obligation est à zéro. Donc autant faire du 10 ans américain avec un risque extrêmement faible et obtenir le même rendement. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue indiciel, ça paraît peu attractif. En Europe, on a une situation similaire, moindre en termes d'intensité, mais c'est également moins intéressant qu'il y a évidemment quelques mois. Mais ça reste quand même plus intéressant qu'aux États-Unis. Après, quand on retraite de la concentration de cette performance, d'où vient la performance de ces indices, on le sait aux États-Unis, les 7 magnifiques, même plutôt les 5 magnifiques.
Oui, mais plus seulement elles, ça se diffuse un peu, la hausse se diffuse un peu.
C'est en train de se diffuser un peu, mais on a encore le potentiel que ça se diffuse plus. Donc si on veut regarder le verre plutôt à moitié plein, on va dire qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui sont à la traîne, aux États-Unis et que ça pourrait être un des catalystes de continuation de la hausse. Mais on pense que techniquement, il serait sain qu'il y ait, et il va y avoir sans doute à un moment donné, une correction. Peut-être tiré par les résultats du premier trimestre. On est rentré dans cette fameuse période où de pré-avertissement sur les résultats. Donc les sociétés donnent un peu une idée de ce que vont être leurs résultats avant de les publier. Oui. Donc ça peut être effectivement, imaginons qu'une grosse technologique américaine ait un message un peu moins optimiste. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on peut imaginer une correction importante qui va entraîner l'indice.
Donc ça, je sens que vous avez le vertige là, qu'on est monté très haut et vous n'êtes pas à l'aise là, Bertrand.
Voilà, on n'est pas à l'aise. Effectivement, il y a eu des révisions à la hausse de la croissance économique américaine, mais pas suffisantes. On n'est pas dans un boom économique tel qu'on puisse justifier une envolée des cours comme ça. Et également, attention, l'Europe, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis. Hein. L'Europe, on tangente quand même la récession dans pas mal de pays. Hein. L'Allemagne, techniquement, y a été. Donc voilà. Donc il faut faire attention quand même. Les États-Unis tirent tous les marchés. Alors même s'il y a un écart encore une fois de valorisation important entre les US et l'Europe, voilà, l'Europe n'est plus bon marché. Elle est plutôt bien valorisée.
Oui, mais les investisseurs restent assez confiants. Je sens votre prudence et vous l'exprimez clairement, mais on regarde par exemple les fonds mixtes actions-obligations. Il y a un déséquilibre qui s'est créé avec la hausse des actions depuis le début de l'année dans ces fonds mixtes, évidemment, puisque les actions ont largement surperformé, progressé, donc le poids des actions a progressé. On aurait pu se dire avec la clôture trimestrielle, ben voilà, les fonds mixtes vont peut-être en vendant des actions déséquilibrer le marché et peut-être en tout cas, peser sur le marché actions en vendant leurs actions pour essayer de rééquilibrer leur mix actions-obligations. Ben, on voit que c'est pas le cas. Est-ce que ça c'est pas un signe encourageant pour la suite? Est-ce que ça c'est pas le signe que les marchés sont malgré tout solides encore et qu'ils en ont encore sous le pied et que les investisseurs gardent confiance dans le marché? Chez Action. Julie.
Écoutez, je pense qu'il y a, il y a plusieurs points dans ce que vous dites et c'est très juste. La première chose, c'est qu'on arrive dans une phase où il y a des anticipations de baisse de taux. Elles se sont normalisées. En plus de ça, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde attend autour de 3 baisses de taux sur cette année. Qui dit baisse de taux dit une attractivité un petit peu plus importante sur le pôle des actions. Donc ça, c'est un premier élément qui est un élément de soutien et d'intérêt sur les actions. Deuxième élément, on est quand même, malgré effectivement une révision haussière du PIB qui est ce qu'elle est, qui est lagging, hein, c'est-à-dire c'est quand même, on parle du passé. Ce que l'on voit en revanche dans la trajectoire, c'est qu'on rentre en fait dans une phase de reprise de croissance des profits. Et on en parlait, c'est-à-dire qu'on attend les publications trimestrielles du premier trimestre et on attend dans ce contexte-là à peu près 6% de croissance des profits. Ça sera, si c'est le cas, le troisième trimestre consécutif de hausse des profits et on voit bien là que on est sur des bases de comparaison assez faciles pour un certain nombre de sociétés et que de ce fait, effectivement, ça donne aussi un certain soutien au marché des actions. Et dernier élément qui a été évoqué largement, oui, on a une valorisation qui est, sans être extrême, est relativement importante. Mais en même temps, quand on regarde la valorisation du S&P en équipondéré, c'est-à-dire sans regarder les effets de taille de capitalisation, on arrive à une valorisation globale du marché de 17 fois. 17 fois, on n'est pas du tout dans quelque chose d'extrême. Donc, tous ces éléments sont quand même des éléments qui nous semblent relativement encourageants. Après, il y a toujours de la volatilité, il y a toujours des moments où on peut avoir des éléments, mais voilà.
Et on a la croissance en soutien, puisque la croissance américaine, par ailleurs, du quatrième trimestre, a été encore révisée à la hausse à 3,4%. Enfin, on n'en finit pas de réviser à la hausse la croissance.
Hein. Enfin, je veux dire, c'était le quatrième trimestre, c'était la dernière estimation. En revanche, il y a deux éléments très intéressants.
Et c'est de l'acquis de croissance aussi pour la suite.
C'est un acquis de croissance, mais c'est sur l'année dernière. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est de voir deux choses. C'est que la consommation a été plus forte que prévu. Et ça, c'est quelque chose qui montre bien que le salaire réel est qui progresse, puisqu'on a un salaire réel qui a progressé, enfin un salaire qui a progressé plus vite que l'inflation. C'est un élément qui est également un soutien de la croissance du PIB, puisqu'encore une fois, la consommation, c'est 2/3 du PIB américain. Et l'autre élément, c'est que l'inflation était bien dans une voie de désinflation. Donc ça, ce sont des éléments qui sont également tout à fait encourageants.
On est à 18 minutes de la clôture. 7h17. On approche, dernière ligne droite et on accélère. Le CAC 40 pour cette dernière clôture du trimestre donc et de la semaine progresse à peine. On était en hausse tout à l'heure un peu plus forte. Là, on gagne que 0,05%. Et on espère rester dans le vert. C'est pas gagné. On est à 8208 points en ce moment sur le CAC. Ce matin, quand même, il était 11h09. Le CAC 40 a touché un nouveau plus haut absolu, un nouveau record. Donc le trend est toujours très positif, bien sûr. On était tout à l'heure à 8253 points. C'est le nouveau record du CAC battu donc et touché tout à l'heure. Du côté des sociétés qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, Eurofins gagne 2,7%. Le secteur bancaire aussi bien orienté. On est sur un trend favorable depuis quelques jours sur le secteur bancaire. BNP Paribas gagne 1,8%. Société Générale gagne 2%. Repli pour Stellantis qui recule d'1,3%. Puis surtout, hors CAC 40, Soitec dont la publication déçoit. En fait, Soitec a du mal à écouler ses stocks. Le marché des smartphones un peu trop chancelant par rapport au niveau de stock de Soitec. Et ce titre Soitec largement sanctionné. Aujourd'hui, Soitec perd quasiment 20%. Décidément, le marché ne fait toujours pas dans la demi-mesure lorsqu'il est déçu. Moins 19% Soitec en ce moment à quelques minutes de la clôture. À l'inverse, Trigano, belle publication. Et ce titre Trigano, lui aussi profite d'une réaction forte du marché. Trigano à la hausse de quasiment 10% cette valeur. On continue de parler du potentiel des marchés avec Bertrand Puif et Julie Jourdan. Est-ce qu'on commence à se dire, Julie, qu'on entre dans le meilleur des deux mondes aux États-Unis, qu'un nouveau paradigme très positif pour le marché est en train d'arriver, d'advenir aux États-Unis, à savoir des autorités budgétaires, monétaires qui finiraient par s'accommoder d'une inflation au-delà des objectifs initiaux de 2% et qui donc, même si l'inflation restera au-delà des 2%, ou pourrait rester au-delà des 2%, baisserait quand même leur taux. Donc un monde avec un peu plus d'inflation qu'avant, ce qui n'est pas mauvais pour la croissance, et en même temps, une politique monétaire plus accommodante. Une sorte de monde parfait pour les marchés. Est-ce que c'est ça qui est en train de s'organiser, de se mettre en place peu
alors,
à peu là-bas?
J'en suis pas tout à fait sûre. On a eu une Fed qui a été quand même très explicite. Ils sont extrêmement vigilants sur les niveaux d'inflation. Après, ce qu'ils ont également dit, c'est que sur les deux premiers mois de l'année, on a eu des chiffres d'inflation qui étaient un petit peu supérieur à ce qui pouvait être attendu, mais pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Au début d'année, on le sait, il y a toute une série d'industries qui augmentent les salaires ou qui augmentent les prix. C'est quelque chose qui ne se reproduit pas forcément le reste de l'année. Quand on regarde un certain nombre d'indicateurs en février, on voit que la normalisation sur la partie logement, qui est quand même un point majeur d'attention, est en train de se faire. Donc ces chiffres ont besoin d'être confirmés, mais effectivement, la Fed a confirmé qu'elle continuerait dans son état d'esprit de baisser les taux trois fois cette année, y compris avec ces chiffres d'inflation qui étaient un petit peu supérieurs.
Et oui, est-ce que quelque part dans les projections de baisse de taux de la Fed, alors qu'on ne va pas vers l'objectif d'inflation de 2%, puisque l'inflation réaccélère, mais la Fed prévoit toujours trois baisses de taux cette année, est-ce que quelque part, ce n'est pas de la part de la Fed une façon d'abandonner implicitement son objectif d'inflation de 2%? Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se mettre en place?
Ils avaient déjà évoqué l'idée qu'on devait être autour de 2% et qu'ils baisseraient les taux avant d'arriver à l'objectif. Ouais. Donc là, on continue d'être dans cette lignée et on continue quand même d'être dans une lignée de désinflation. Donc, les ambitions et la stratégie restent là. Donc, effectivement, on verra, mais pour le moment, ils s'en tiennent à leur agenda et à ce qui avait été énoncé précédemment.
Bertrand, est-ce qu'on peut imaginer que l'inflation reste supérieure aux objectifs des banquiers centraux parce que le monde a changé, mais que les taux baissent quand même?
Et parce qu'il faut rembourser la dette. C'est le meilleur moyen de rembourser la dette qui est l'inflation. Vous avez plus de salaires, plus de TVA, plus d'impôts sur les salaires, plus de TVA. Donc c'est aussi une manière de... Voilà, mais il faut trouver le bon équilibre et se stabiliser entre 2-3, 3-4, c'est pas la même chose. Maintenant, l'inflation à long terme sur aux États-Unis, elle est entre 3 et 4, donc c'est pas une aberration non plus. Le 10 ans américain à long terme, sa moyenne, c'est 6%. Donc c'est vrai qu'on a vécu 10 ans ou 12 ans c'est-à-dire d'aberration économique, mais quand même de choses assez étonnantes.
C'était Alice au pays des merveilles, pas mal.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une normalisation. Et je pense que les banquiers centraux aussi réagissent par rapport à la période des 10 dernières années. Et là, ils sont en train plus de se mettre dans un mode de normalisation également.
Donc. Un monde avec un peu plus d'inflation, c'est bon pour la croissance, parce qu'un peu d'inflation, c'est bon pour la croissance, ça nourrit la croissance et la consommation, c'est bon pour le désendettement. Et si parallèlement, ça n'empêche pas les banquiers centraux de baisser leurs taux, c'est un monde parfait pour les marchés. Enfin. Voilà.
Effectivement. Alors après, donc là, on est dans un environnement qui est vraiment les États-Unis. Oui. Donc en Europe, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et le problème qu'on va avoir, qui va se poser très vite, c'est que si la BCE doit baisser ses taux pour, même si c'est pas son objectif principal, mais parce qu'il y a une pression politique pour aider l'emploi, et évidemment, donc la Fed, on l'a dit, ce sera plutôt sur la deuxième partie donc de l'année, donc un décalage. qu'est-ce qui va se passer sur les devises? Donc on va avoir évidemment un dollar qui va être fort, et donc nous, en Europe, on va importer plus d'inflation. Et donc là, cette inflation-là, elle ne va pas forcément être bonne. Donc c'est là où vraiment la problématique est en train de se décaler des États-Unis. Il y a encore 6 mois, on se dit, oulala, les États-Unis, est-ce qu'ils vont être en soft landing? Est-ce qu'ils vont être en récession? Quand est-ce qu'ils vont baisser les taux? Là, en fait, les nuages sont en train de se disperser au-dessus des États-Unis, mais ils arrivent vers nous. Ils traversent l'Atlantique et ils arrivent vers nous.
J'ai envie de vous dire, ils sont jamais arrivés aux États-Unis, les nuages. La peur des nuages était là, mais ils sont jamais arrivés. En revanche, vous pensez qu'on a peur des nuages ou vous pensez qu'ils sont vraiment en train d'arriver davantage là sur l'Europe? Parce qu'on n'a pas de hard landing non plus en Europe. Ok, on a un landing un peu plus net qu'aux États-Unis, mais toujours pas de hard landing. Vous pensez qu'un possible hard landing nous pend encore aussi en Europe?
Bah forcément hard landing. Mais je dirais des statistiques, notamment du point de vue de l'emploi, qui mettent un peu plus la pression sur la BCE pour pouvoir baisser, à mon avis, ces taux plus rapidement que la Fed. Mmh. Est-ce qu'ils tiendront jusqu'au deuxième semestre? C'est pas sûr.
Oui. La BCE va-t-elle devoir baisser ses taux plutôt que la Fed? Cette question, elle reste en suspens, elle reste posée parce que la croissance ici en Europe est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Pour vous, Julie, oui, la BCE baissera ses taux avant la Fed ou, comme d'habitude, au contraire, elle laissera la Fed tirer en première?
Alors moi, je peux pas m'exprimer sur la BCE parce que c'est vrai qu'étant très focalisé sur les US, je n'ai pas d'opinion là-dessus.
J'aurais tenté. Mais vous préférez, par exemple, le marché américain au marché européen, ou même ça, vous n'avez pas le droit de le dire parce que vous ne suivez que les États-Unis, donc vous n'avez aucune opinion sur le marché européen?
Je ne suis que les États-Unis. C'est déjà un marché extrêmement large.
Non, mais très bien. Alors, sur les États-Unis, et après, on va parler aussi du marché européen, bien sûr, avec Bertrand, mais sur le marché américain, vous voyez cette diffusion de la hausse au-delà des 7 magnifiques. Là, c'est en train de se faire. Les cycliques, les défensifs sont en train aussi de profiter de la hausse des marchés.
Alors, c'est vraiment, effectivement, ce qu'on a vu là ces derniers mois, et c'est vraiment très intéressant, c'est que ce que l'on voit, c'est que non seulement, effectivement, l'indice qu'on dit donc equal weight, donc sans référence aux capitalisations, est un record depuis le début de l'année. Et ce qui s'est passé, et qui est vraiment à surveiller, c'est qu'on a eu des indicateurs manufacturiers, notamment, qui sont ressortis extrêmement solides pour les derniers indicateurs, avec une nette accélération. Et ça a redonné, en fait, une dynamique, notamment sur les cycliques, qui est quelque chose que nous n'avions pas vu depuis longtemps, puisque la partie industrielle américaine était sous pression depuis de très longs mois. Et c'est vrai que là, on commence à avoir des indications d'une réaccélération avec des niveaux de stock qui étaient particulièrement bas et donc des besoins de réaccélérer en termes de production, de carnet de commandes, etc., avec un environnement d'inflation qui, pour le coup, s'était bien amélioré quand on exclut la dernière donnée, mais de manière globale, elle s'était bien améliorée.
À travers l'industrie et l'IRA, donc les plans d'investissement américains dans l'industrie, la transition énergétique, l'armement aussi, bien sûr, l'industrie de la défense dans le contexte géopolitique, ce sont les classes moyennes que Joe Biden est en train d'essayer de réarmer également. Enfin, on a un réarmement on parle de réarmement démographique ici en Europe. Comment réarmer démographiquement l'Europe? Est-ce que là-bas, on est en train de réarmer les classes moyennes, leur donner à nouveau, leur permettre de retrouver du pouvoir d'achat à travers l'industrie, le développement du secteur industriel?
Le pouvoir d'achat, il s'est significativement amélioré ces derniers mois avec une accélération plus rapide, en fait, du niveau des salaires par rapport au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une décélération de la croissance des salaires, mais qui reste sur des niveaux relativement solides. Et effectivement, cette hausse des salaires, elle a privilégié en premier lieu les classes moyennes et les gens qui avaient le moins de formation. Donc c'est quelque chose qui est positif. Ça n'empêche que l'inflation a été un élément qui a pesé sur certaines catégories de consommation, et c'est vrai que ça, ce sont des choses qui sont à surveiller. Il y a eu des transferts de consommation vers les services par rapport aux biens.
Ici en Europe, qu'est-ce qu'il faut jouer d'après vous, Bertrand? D'ailleurs, c'est une question que nous posent certains auditeurs et téléspectateurs. Les marchés sont au plus haut. Est-ce qu'investir dans les marchés actions au plus haut, c'est une bonne idée?
Alors, on a effectivement là une dispersion des performances qui est importante. Hein, alors, pas aussi extrême qu'aux États-Unis. Et des valorisations. Alors, c'est vrai que le marché européen est à 14 fois, ce qui est plutôt en ligne avec sa moyenne historique. Mais quand on retraite des granolas, pas des 7 magnifiques, mais des granolas, donc des belles sociétés de croissance, ASML, SAP, L'Oréal, Novo Nordisk et autres, on est plutôt proche des 10 fois, 10-11 fois. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, quand on va dans ce vivier-là, on a quoi dans ce vivier-là? On a des sociétés donc d'assurance, on a des sociétés donc de matières premières, on a de l'énergie, on a de l'automobile, qui est vraiment, vraiment pas cher, hein, parce qu'il y a eu toutes ces craintes de récession du consommateur en Europe, qui, peut-être et sans doute va arriver dans certains pays, mais qui est déjà dans les cours de bourse. Donc c'est vrai qu'il faut plutôt aller chercher ces sociétés-là qui ont des valorisations faibles aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment quand même une manière un peu d'éviter, s'il y a une correction de marché global, de baisser trop fortement. C'est-à-dire qu'elles baisseront aussi, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, mais sans doute moins. Que ces grandes valeurs qui sont quand même un petit peu plus chères. Et quand je dis grandes valeurs, il y a aussi effectivement ce biais de capitalisation. C'est les petites et moyennes valeurs aujourd'hui, en particulier en Europe, n'ont jamais été aussi peu chères. Donc aller chercher dans les secteurs que j'ai évoqués des petites et moyennes capitalisations peut aussi faire du sens.
Voilà. 17h28, dans 7 minutes, la clôture. Aude nous appelle depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Rebonsoir Aude, vous nous ferez vivre cette clôture de la semaine, bien sûr, aujourd'hui, dernière séance de la semaine, puisque demain, il n'y aura pas de séance en Europe et aux États-Unis, dernière séance du mois et dernière séance du trimestre. Comment ça se présente, cette clôture?
Ben, on ralentit encore un petit peu, on perd les gains qu'on avait, plus 0,06% pour le moment. On le sent, ce petit stress qui est présent sur les marchés européens, sur les indices américains aussi, qui sont à l'arrêt cet après-midi. Le stress, c'est par rapport à la publication demain de l'indicateur PCE, hein, l'indicateur favori de la Fed en matière d'inflation. Même si les marchés sont fermés, lui, il sortira bien à 13h30. Et au niveau des estimations, qu'attend le marché pour cet indicateur PCE? On s'attend à ce que l'inflation augmente légèrement pour le mois de février. On sera sur les données du mois de février. Plus 2,5% en rythme annuel de progression pour l'inflation globale et plus 2,8% pour l'inflation sous-jacente qui devrait être stable par rapport au mois précédent, mais une petite hausse qui serait cohérente avec ce qu'a dit Jérôme Powell il y a une semaine lors de la réunion de politique monétaire. Ça ne devrait pas être le signal d'une baisse de taux à la prochaine réunion, le consensus étant toujours aux États-Unis pour une première baisse au mois de juin. Voilà ce qu'on attend donc pour le PCE demain et qui cause notre petit stress sur les marchés qui fait qu'on monte un tout petit peu.
Oui, de moins en moins. On monte de moins en moins. Les gains sont en train de fondre comme neige au soleil. On ne gagne plus que 0,1% avant demain la publication de cet indicateur important, alors que les marchés seront fermés. Les marchés américains y réagiront lundi. Lundi, Wall Street sera ouvert, mais les marchés européens ne réagiront eux que mardi. Donc il y a de l'attentisme et il y a un peu de stress là avant cet indicateur PCE attendu demain. Aude, dans quelques minutes, la clôture, vous nous la ferez vivre en direct. 17h29, on entre dans la data room. Les chiffres prennent le pouvoir juste avant la clôture chaque soir sur BFM Business. Julie et Bertrand, êtes-vous prêts?
Oui.
Vous avez chacun une minute trente, pour présenter une data forte, une data à forte valeur ajoutée pour ceux qui nous suivent et nous regardent et qui en disent long sur les changements du monde, un chiffre de marché que vous avez repéré. Julie, on va démarrer avec vous. Votre data, c'est 2,75 milliards de dollars.
Tout à fait. Et alors ce chiffre, c'est le montant de l'investissement d'Amazon dans une société qui spécialisée dans l'IA, qui est moins connue qu'OpenAI, qui s'appelle Anthropic. Ils avaient déjà investi 1,25 milliard en septembre et s'étaient donné une option d'investir, de monter jusqu'à 4 milliards. C'est ce qu'ils ont annoncé hier. Pourquoi c'est important? Parce que Amazon, finalement, aujourd'hui, on les connaît pour trois choses. Évidemment, le site d'e-commerce, on les connaît pour toute leur offre, on va dire, Prime Video, mais aussi sur AWS. AWS, qui est leur offre cloud, sur lequel ils sont les leaders mondiaux. Hein. Ils ont plus de 30% de part de marché. Et là, ils sont en train d'accélérer leur déploiement sur tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et ils n'y vont pas de la même manière que Microsoft. Microsoft, ils ont pris une participation dans OpenAI l'année dernière en investissant directement 13 milliards de dollars. Amazon, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont pris une première participation. Aujourd'hui, ils exercent leur option sur les 4 milliards. Et cette option, elle exerçait à un moment intéressant. Au moment où Anthropic sort des résultats sur son chat, l'équivalent de ChatGPT, sauf que chez eux, ça s'appelle Claude. Et cette version 3, Claude, donne des résultats qui sont supérieurs à ceux de ChatGPT. Et c'est ce moment-là qu'ils ont choisi pour exercer leur option. Donc c'est un élément qui est intéressant, surtout quand on le met en rapport avec des contrats qu'ils ont pris pour sécuriser leurs accès à des tout ce qui est relais dans des data centers. Et là aussi, ils ont conclu des très gros contrats pour s'assurer d'avoir la capacité demain, justement, de pouvoir faire tourner, en fait, ces langages importants et cette intelligence artificielle générative. Donc, on voit bien qu'on a une stratégie qui est en train de se mettre en place et une accélération. Et tous les acteurs, et on va dire toutes les mégathèques américaines, que ce soit Microsoft, Apple, Google ou Meta, ont tous une stratégie un peu différente parce qu'on n'est qu'au début de l'histoire.
Claude, c'est le nom de cette intelligence artificielle, C-L-A-U-D-E
Comme le prénom.
Ah oui, alors ça vient du latin. Ça vient du latin, claudus, en latin ça veut dire boiteux. Voilà. Et d'ailleurs, on est désolé pour ceux qui s'appelleraient Claude ou Claudine et qui nous écoutent. Claude vient de mot boiteux en latin.
Du claudiquer.
Voilà. Claudiquer, exactement. Voilà. On apprend plein de choses dans BFM Bourse, effectivement. Vous avez mis la barre très haute, Julie, dans cette data room. À vous, Bertrand, d'éblouir nos auditeurs et téléspectateurs avec votre data. Votre chiffre ce soir, 50%.
Voilà, 50%, je le disais tout à l'heure dans le bouchettomètre, des fusions-acquisitions aboutissent à une destruction de valeur en bourse. Donc il faut être extrêmement sélectif. Alors qu'est-ce qui marche pas? En règle générale, plus la taille des deals est importante, plus c'est compliqué. On sait qu'il peut y avoir des problématiques culturelles, hein. Par exemple Daimler et Chrysler, de chaque côté de l'Atlantique, ça a été très compliqué, ça finit par un divorce. Donc ça c'est un élément important, donc plus c'est petit, plus petit. Plus c'est plus facile à assimiler en termes de taille. Ça, quelque chose qu'on a vu de manière assez régulière dans l'histoire. Également, la valorisation. Plus on achète un titre cher en pic de cycle, une société chère, et donc un titre en bourse, quand la société est cotée en bourse chère, plus c'est compliqué, là aussi, hein, puisque il faut quand même, et c'est un petit peu donc la leçon à donner à nos auditeurs, regardez à quel multiple traite la société qui achète et à quel multiple traite la société qui a acheté. On retraite des synergies. Et on voit si on passe en dessous ou si on reste toujours au-dessus du multiple. Si on reste toujours au-dessus de son propre multiple,
c'est pas bon signe.
Ça va être compliqué.
Ouais. 50% des fusions-acquisitions ne créent pas de valeur.
Sur 25 dernières années, tout à fait.
Impressionnant, oui. Beaucoup croient qu'investir dans les fusions-acquisitions, c'est bon parce que ça crée de la valeur boursière. Non, dans 50% des cas, ça n'en crée pas.
Voilà, il y a une euphorie au départ, quand on regarde sur le long terme, effectivement, elle tombe, voire elle disparaît.
Et vous en parliez aussi dans le bullshitomètre, effectivement, à 16h40. Bah, on ne peut qu'inviter ceux qui nous suivent et nous regardent à retrouver le bullshitomètre en replay. Plus de détails encore et des idées d'ailleurs pour les investisseurs particuliers qui se demandent comment investir dans les fusions-acquisitions porteuses de création de valeur. Vous nous avez apporté un mode d'emploi tout à l'heure à retrouver donc en replay. Merci à tous les deux. C'est la Data Room. Julie Jourdan pour Amplegest. Merci Julie d'être passée nous voir. Merci Bertrand Puif pour Fidelity dans un instant, la clôture en direct. On va appeler Aude Kersulek, on rejoindra aussi Romain Daubry depuis Bourse Direct. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulek avec nous depuis la tour Euronext. Rebonsoir Aude, comment termine-t-on cette semaine boursière ?
Quasiment à l'équilibre, plus 0,01%, 8205 points. Une dernière séance au ralenti, pour une semaine quand même qu'on a eu au ralenti, hein, puisque l'indice parisien aura progressé de 0,2% sur la semaine, hein, de 4 séances, c'est vrai. Mais tout de même, alors au cours de la journée, on a quand même une satisfaction, c'est d'avoir passé les 8250 points en séance, avec ce nouveau record à 8253 points. Mais ça s'est bien réduit depuis, hein, au point de clôturer tout juste à l'équilibre. On suit finalement ce qui se passe à Wall Street où les indices sont également à l'arrêt. Donc un CAC 40 qui finit quasiment à l'équilibre. Au niveau de la composition de l'indice, on a Eurofins qui continue de faire la course en tête. Alors depuis ce matin, plus 2,9%. Les bancaires qui sont très très bien placées puisqu'elles sont dans le quatuor de tête, hein, BNP, Société Générale ou encore Crédit Agricole. Le Grand aussi qui bénéficie d'un relevé de recommandation de Morgan Stanley. En revanche, dans le rouge, on retrouve Carrefour, Stellantis ou encore ST Micro Electronics. Le secteur des puces, c'est vrai qu'il n'est pas bien orienté, hein, aujourd'hui. Le gadin du jour sur l'indice PAS, sur la Bourse de Paris, est vraiment indice élargi, hein. C'est Casino Guichard Perrachon, moins 63%. La valeur était suspendue hier. Il y a eu une augmentation de capital, hein. Une vraie restructuration très lourde et très dilutive pour les actionnaires. Voilà ce qui cause cause la dégringolade de la valeur qui ne vaut ce soir plus que 4 centimes. Et puis d'autres belles progressions, c'est Vusion Group après ses résultats annuels, Trigano après ses résultats trimestriels, on est entre plus 10 et plus 11% de hausse. Atos aussi quasiment 7% de hausse, on est à 1,90€. Soitec en revanche a déçu sur ses perspectives, et là aussi c'est quand même aussi un gadin, moins 20% wow. pour Soitec. Donc voilà.
Moins 20.
Pour la séance incroyable. Du jour, dans un volume d'affaires qui est un petit peu plus étoffé que les jours précédents, hein, 3,6 milliards échangés aujourd'hui, et finalement une clôture stable, mais aussi une dernière séance de trimestre où on est monté de plus de 9% hein, pour le CAC 40 depuis le début de l'année. C'est quand même un très beau début d'année.
Bah, effectivement, impressionnant ce premier trimestre du CAC 40, plus 9%. Le S&P gagne 10% sur le trimestre, mais ça n'empêche pas effectivement de lourdes sanctions à la moindre déception. Vous le disiez, moins 20%. On finit par s'y habituer. Moins 20%, il faut le répéter quand même, parce que c'est quand même spectaculaire. Sur Soitec, qui a du mal à écouler ses stocks. Soitec, donc, compliqué. On va justement débriefer cette séance avec nos experts jusqu'à 18h. Mais d'abord, Romain Daubry est avec nous pour cette clôture trimestrielle. Quel signal le marché envoie-t-il pour cette clôture ce soir? Légère hausse très timide du CAC 40. Rebonsoir, Romain. Voilà, dernière séance du trimestre. Comment est-ce que vous sentez les choses désormais pour la suite sur le CAC?
Marquer un point haut en séance et revenir clôturer près de l'équilibre, ça forme ce qu'on appelle une étoile filante. C'est le cas sur l'indice CAC 40, c'est le cas sur l'Eurostoxx. Donc un peu de contre-pied dans une séance pas très étayée, pas très étoffée, et depuis quelques jours maintenant. Donc on a un risque de consolidation de l'ordre de 2-3% sur les indices qui a l'air de se mettre en place. Il n'y a pas de choses dramatiques, mais on voit que les valeurs qui ont beaucoup payé récemment retracent, des valeurs comme Schneider Electric, comme Stellantis, et à l'inverse on a des signaux plutôt intéressants sur Eurofins. Donc on reste constructif, mais peut-être un petit peu de prudence à avoir et un peu de flottement dans les quelques séances à venir, compte tenu d'un marché pas très étayé.
Merci beaucoup. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Bonne soirée, Romain. Le CAC 40 en toute petite hausse. On débriefe tout de suite cette séance et on va répondre aussi aux questions que vous nous envoyez, que vous nous laissez chaque jour sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse notamment. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à nos deux experts, Mathias Desmarais, bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Responsable de l'activité action Dodo BHF. Hervé Laurent aussi nous accompagne. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Guillaume.
Gérant petites et moyennes capitalisations pour Groupama Asset Management. On a une question d'auditeurs, mais auditeurs avec un S. Ils sont nombreux à nous poser cette question. Les marchés sont sur des records. On a touché un nouveau record ce matin sur le CAC. Est-ce vraiment le meilleur timing pour investir en bourse alors que les indices sont au plus haut?
Mathias. Écoutez, nous, on reste assez constructifs malgré ce très bon premier trimestre. On s'aperçoit finalement que les résultats des sociétés n'ont pas déçu, en tout cas par rapport aux craintes qu'on avait sur l'environnement économique. On voit que tous les PMI et les indices économiques des deux parts de l'Atlantique sont plutôt en nette amélioration, ce qui veut dire que finalement l'activité économique semble tenir bon. On a des perspectives de baisse des taux, donc nous on pense que la tendance pourrait se poursuivre à minima pendant le deuxième trimestre.
Même point de vue, vous le sentez bien le marché là, même si on est sur des plus hauts, il n'est pas trop tard pour investir?
Alors par définition, quand on part d'un plus haut et qu'on monte, on est encore sur un plus haut, et donc c'est une question qui risque d'arriver assez souvent. De manière générale, les marchés montent en réalité 90% du temps, et ça coûte plus cher en général de ne pas être investi que d'être investi, à condition d'être sur les bonnes valeurs évidemment. Donc pour nous, effectivement, comme le disait Mathias, les sociétés se portent bien. On parle d'une récession, mais en réalité, on ne la voit pas vraiment dans les chiffres des sociétés. Donc, il n'y a pas de raison d'être particulièrement plus prudent que d'habitude.
Oui, et puis il y a l'espoir que le point bas de la croissance en Europe soit en train d'être passé, que la croissance réaccélère pour la suite. On a aussi une masse monétaire qui repart un peu à la hausse en Europe. Le chiffre a été publié tout à l'heure, ce qui est peut-être bon pour les liquidités à venir sur le marché aussi, en tout cas dans l'économie. Bon, il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Et puis les niveaux de valorisation, beaucoup d'experts nous le disent, en Europe sont relativement raisonnables. On est toujours à peu près dans la moyenne, voire sous la moyenne historique de valorisation. Donc peut-être encore du potentiel. On a des valeurs qui publient, des sociétés qui publient, même si on est dans une phase un peu creuse de publication. On a Trigano notamment qui a publié hier soir. Elle s'est largement saluée. Ce titre Trigano gagne ce soir, Hervé, 10%. Oui. Et Camping Car, oui, c'est une affaire du 21e siècle encore.
À Trigano, c'est réellement l'exemple d'une société qui a l'air d'être sur quelque chose, qui a un marché relativement vieillissant ou ancien, mais qui en réalité arrive à consolider le marché autour d'elle, à faire croître ses parts de marché de manière très régulière, et finalement, bah, ça donne des performances qui sont dans la durée excellentes. Pour expliquer la publication d'aujourd'hui, qui était une croissance de 17% de Trigano, et qui a beaucoup surpris, En fait, il faut comprendre que les deux années précédentes, ils avaient du mal à se fournir en châssis, donc sur lesquels on vient bâtir ensuite le camping-car. Et donc, leur croissance avait été limitée. Et leur carnet d'ordre avait cru de manière très forte, très importante. Et donc, aujourd'hui, les châssis retrouvent à nouveau un peu de volume, puisque les Stellantis, etc., n'ont plus ces contraintes de production. Et donc, du coup, le chiffre d'affaires de Trigano monte simplement par effet ressort.
Parce que les châssis trouvent une certaine assise, voilà. Donc effet ressort. Non, ouais. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter Trigano? Est-ce que vous avez envie de renforcer encore, alors que le titre a encore gagné 10%.
C'est toujours une très belle société qui continue à faire des belles acquisitions, à gagner des parts de marché de manière régulière, à avoir une marge qui est extrêmement solide et qui est beaucoup moins cyclique que ce que les gens pensent, et qui est sur un PE qui est très limité.
Il y a quand même la question du rachat de la division Mobile Home de Beneteau. On attend toujours la réponse, la décision, l'aval de l'autorité de la concurrence. C'est un enjeu important pour ce groupe, ce titre Trigano.
C'est plus un enjeu pour moi pour Beneteau que pour Trigano, parce que l'activité historique se porte très bien. Et puis surtout le carnet de commandes, le management, c'est vous très rassurant sur le carnet de commandes et sur la saturation des capacités de production, ce qui veut dire que les perspectives restent très bonnes.
Trigano qui rit, Soitec qui a publié aussi qui pleure. Alors là, Aude nous a quand même séché en nous annonçant cette baisse ce soir en clôture de Soitec. Publication lourdement sanctionnée, le titre perd 20% ce soir. On est pourtant dans les équipements électroniques, a priori il y a une forte demande. Soitec n'en profite pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe là chez Soitec? Moins 20%. Est-ce qu'on est dans l'excès des marchés, dans une forme de disproportion, cette baisse de 20%, ou elle est pleinement méritée d'après vous, Mathias?
Alors, ça correspond à peu près quand même aux attentes et à la déception qu'on a eue sur le chiffre d'affaires, notamment sur la perspective d'un chiffre d'affaires à tonnes sur l'exercice qui démarre aujourd'hui. C'est lié essentiellement à un produit qui est le RF-SOI, qui est en fait, pour faire simple, ça permet la transmission et la réception de radiofréquences sur votre portable. Et là, il y a un gros déstockage à venir, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur les 6 prochains mois, ce qui veut dire qu'on va avoir une année fortement en V. Et ça, c'est vrai que c'est exactement ce qu'ils avaient annoncé il y a un an, là où personnellement, j'ai envie de voir le verre à moitié plein, c'est que finalement, le marché des smartphones se tient mieux qu'il y a un an. Et donc, effectivement, sanctions méritées, mais probablement un bon point d'entrée pour le coup. Sur la valeur.
Ouais, plutôt un point d'entrée, vous partagez cet avis, Hervé?
Oui, tout à fait. En fait, d'accord. Pour comprendre vraiment ce qui se passe, la chaîne de valeur dans les semi-conducteurs, quand on passe de ce que produit Soitec au smartphone final, en fait, on est sur des délais de production qui sont très très longs, avec des stocks qui se trouvent à toutes les étapes. Donc chez les fondeurs, chez les distributeurs, voilà. Et donc, on peut avoir 6 mois de stock, en fait. Et si vous passez de 6 mois de stock à 5 mois de stock, parce que chacun déstocke légèrement, en fait, vous avez un impact sur le chiffre d'affaires final qui est très important. Et en fait, la mauvaise nouvelle qu'on a là, c'est que le quatrième trimestre était pratiquement plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de décroissance du chiffre d'affaires de Soitec. Et là, on découvre qu'en fait, ça n'était pas une bonne nouvelle, puisque derrière, au T1, finalement, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive.
Point d'entrée.
Point d'entrée
ou pas, oui, c'est positif, oui.
Si, parce que...
Ah, vous l'assumez, quoi, oui.
Oui, parce que la technologie de Soitec est toujours là. Leur contenu dans les téléphones va continuer à progresser. Vous avez le Wi-Fi 6, vous avez la 5G qui va continuer à se diffuser. Donc, il y a une croissance embarquée qui est sous-jacente, mais cet effet des stockages fait qu'on ne la voit pas.
Bon, pourquoi pas profiter de cette baisse? En tout cas, Soitec ce soir souffre énormément. Hein. Moins 20% en clôture, compliqué. Alors, chaque jour, on vous interroge aussi, vous qui nous suivez à la radio et à la télé, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose jour après jour sur notre fil X BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. Les cloches sonnent. On est à quelques jours de Pâques. C'est donc une question pascale qu'on vous a posée aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. La question du jour nous mène aux résurrections boursières. Écoutez bien la question du jour.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Eurohappy?
Laquelle ressuscitera parmi ces quelques valeurs crucifiées par le marché, c'est vrai, depuis le début de l'année? Eurohappy, Orpea, Atos ou Casino? C'est la question du jour sur nos réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à répondre. Avant de dévoiler les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs, messieurs, pour vous, votre avis personnel, laquelle de ces quatre valeurs ressuscitera? Mathias.
Alors déjà, je ne suis pas un apôtre de la résurrection, donc je doute. En fait, j'avais envie de vous répondre aucune, puisque Casino, il y a un énorme travail de repositionnement des hyper, de Franprix, Monoprix, Cdiscount, enfin, et beaucoup d'investissements à venir. Atos, l'implication de l'État français potentiellement n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les actionnaires. Orpea, il y a un enjeu de réglementation. Euro API, on voit qu'ils ont plein de problèmes industriels. J'ai envie de vous dire aucune. Si j'avais un petit pari à faire, je me dirais peut-être sur un aspect spéculatif sur Euro API, parce qu'il y a peut-être des actifs à ces niveaux de valorisation. Peut-être qu'un fonds de private equity va vouloir rentrer, mais franchement, prendre avec de grosses pincettes, même avant Pâques.
Une résurrection d'Euro API serait miraculeuse. C'est ça que vous nous dites.
Exactement. C'est Pâques, c'est pas Noël.
Bon. Cette question donc, laquelle de ces quatre valeurs sanctionnées, lourdement châtiées par le marché depuis le début d'année, pourrait ressusciter? Est-ce qu'il y en a une dont vous vous dites, oui, celle-ci pourrait ressusciter?
Je suis d'accord avec mon voisin. Effectivement, Euro API, ça prendra sûrement beaucoup de temps, mais c'est effectivement celle qui semble avoir le plus de potentiel et probablement le moins de risques dans cette résurrection. Il y aura une restructuration longue qui aura lieu, mais malgré tout, ils ont des contrats, ils ont des capacités de production, et donc un jour, ils renaîtront un petit peu côté marge.
Euro API, unanimité sur ce plateau, mais avec beaucoup de prudence, hein, on l'a compris. Vous ne pensez pas que si résurrection de la valeur en bourse il y a, ça se fera en ligne droite, loin de là. Euro API qui, depuis le début de l'année, perd quand même combien? 53%. Alors, dans un instant, on va dévoiler le résultat de vos votes, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn. D'abord, on vous propose de réécouter cette question à quelques jours de Pâques, cette question concernant de possibles résurrections boursières.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euro API.
Eh bien, vous votez pour Orpea, mesdames, messieurs. Majorité pour Orpea, à 44%, vous estimez qu'Orpea pourrait ressusciter en bourse devant Atos à 25%. Euro API n'arrive qu'en troisième position. 16% et seulement 15% pour Casino. On a un auditeur sur les réseaux sociaux aussi qui nous a reproché de ne pas proposer Worldline parmi les autres valeurs crucifiées par le marché depuis le début de l'année. Worldline, effectivement. Là, il y aurait eu, sur Worldline, vous pensez qu'il y a un potentiel de résurrection plus élevé ou pas, messieurs? Toujours pas, non?
Ce sera pas en ligne droite, on va dire, ça c'est clair également. Mais peut-être que l'arrivée de Créa-École pourrait peut-être éventuellement accélérer les choses, mais ça va prendre aussi beaucoup, beaucoup de temps, je pense.
Voilà, c'est dit. La question Pascal du jour sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à chaque fois à nous laisser vos arguments aussi en commentaire. On rebondit régulièrement dessus dans l'émission. On vous rappelle la clôture ce soir sur le marché. Alors, pas de miracle. On ne termine pas sur un nouveau record, mais on a touché quand même en séance ce nouveau record. On a battu un nouveau record. C'était ce matin. Il était 11h09. On l'a vécu en direct sur BFM Business à 11h09. Le CAC 40 a pour la première fois dépassé les 8250 points à 8253. Là, en clôture, on termine à 8205. C'est quand même une légère hausse de 0,01% pour notre CAC 40. Beaucoup d'autres questions à vous poser, messieurs. Tiens, Vusion Group, est-ce qu'il y en a un que ça inspire? Vusion Group, c'est l'ex-SES Imagotag qui a publié ses résultats et surtout qui nous annonce un versement de dividendes pour la première fois en 10 ans. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter ce site qui a gagné ce soir 11%? Qui se jette à l'eau?
Bah, allons-y. Vusion Group est effectivement une très belle publication. On connaissait déjà le chiffre d'affaires, il avait été préannoncé. Ce qui a fait la très grande surprise, c'est la marge qui est passée de 5,1% à 8,2%. Concrètement, ça correspond en fait à un doublement du résultat opérationnel de la société en un an. Donc c'est vraiment une très forte progression. Et la marge sur le chiffre d'affaires additionnel qu'ils ont fait depuis l'année dernière est de 19%. Donc un niveau très élevé. En fait, la nouveauté de cette publication, c'est réellement de démontrer l'effet de levier opérationnel qu'il y a sur la société et le fait que leurs ambitions en termes de marge à l'avenir sont tout à fait, on va pas dire raisonnables, mais sont réellement fondées, en fait. Donc on a une preuve vraiment tangible de la transformation du business et qui est due au fait qu'ils ont des volumes qui sont devenus beaucoup plus importants et que leur principal concurrent est maintenant un petit peu dans les choux.
Donc, vous pensez que ce titre a encore du potentiel?
Oui, ils ont gagné le contrat Walmart au printemps et maintenant, ça va dérouler.
Alors, le dividende, il est symbolique, hein, 30 centimes. Mais voilà, quand une entreprise se jette à l'eau sur le dividende, propose un dividende, c'est pas pour décevoir l'année suivante. On imagine que c'est un signe de confiance dans l'avenir.
C'est une société qui génère beaucoup de cash, hein, déjà depuis des années.
La valeur du trimestre, c'est Ruby. Ruby a gagné 50% sur le premier trimestre et ça a encore accéléré cette semaine avec la montée au capital de Vincent Bolloré. Il faut continuer sur Ruby ou pas?
Bah, nous, on reste positif, tout à fait. On joue il va y avoir de la spéculation, des choses qui vont se passer. Vous savez, Rubis, c'est un distributeur de produits pétroliers. Donc les résultats étaient plutôt bons. On a l'arrivée de Vincent Bolloré. On a aussi l'arrivée d'une autre famille, la famille Molis, compagnie nationale de navigation, à hauteur de 5%. Donc, moi, j'aurais tendance à vouloir suivre ces deux investisseurs, sur le titre, sachant que la valorisation est très, très peu chère. On a un très bon rendement supérieur à 6%. Donc là aussi, peut-être un caractère spéculatif avec des fondamentaux qui s'améliorent au vu des résultats.
Pourquoi pas, donc sur Ruby, opinion favorable sur cette valeur. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alors on rappelle aussi, parmi les valeurs qui souffrent énormément en bourse depuis le début de l'année, le Casino a encore reculé ce soir de plus de 60%. Décidément, la restructuration financière entraîne une dilution largement sanctionnée par le marché. C'est compliqué là pour les actionnaires de Casino, pour les actionnaires d'Atos. Depuis le début de l'année, c'est Casino qui signe la plus forte baisse du SBF 120, pire qu'Atos. Mais voilà, un message quand même aux actionnaires de ces deux valeurs qui souffrent énormément, comme ceux d'EuroAPI, bien sûr, comme ceux d'Orpea, comme ceux de Worldline, comme ceux de Téléperformance. Voilà, il faut quand même envoyer un message de solidarité vis-à-vis de ces actionnaires qui souffrent beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés, Mathias Desmarais, Oddo BHF. Merci Hervé Laurent, Groupama Asset Management et le CAC 40 ce soir qui termine quasi stable après un nouveau record ce matin. Dans un instant, Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.